Antoine Mathieu, chapitre 24. Il y avait à La Houillère un surveillant nommé Landrin, remplissant à la fois les fonctions de maître mineur et de caissier payeur, sur lequel, depuis longtemps, de méchants bruits couraient. On l'accusait de voler une part du salaire des ouvriers. Il était arrivé, à plusieurs reprises, que des mineurs, en recomptant leur argent les jours de paix, à quelques pas de la caisse, n'avaient pas trouvé la somme à laquelle ils s'attendaient. Maintes réclamations s'étaient élevées. Elles avaient toujours été vaines. Landrin les accueillait par des jurons et des cris de colère. Un samedi soir, pourtant, la chose devint flagrante. Deux ouvriers, qui avaient travaillé dans la même galerie et accompli la même œuvre, reçoivent leur salaire. Ils le comptent et le trouvent incomplet. Ils se communiquent les résultats de leur examen. C'est la même somme qui revenait à chacun. Ce qui manque à l'un n'est pas identique à ce qui manque à l'autre. 2 francs font défaut à celui-ci, 3 à celui-là. Ils ont tenu note, jour par jour, de leur travail. Ils l'ont calculé minutieusement. Ils savent, à 1 centimètre près, l'avancement qu'ils ont exécuté. Leur certitude est absolue. Ils ne se trompent pas. Immédiatement, ils retournent vers Landrin, auquel ils disent qu'il ne leur a pas été payé tout ce qui leur était dû. Landrin s'emporte. Ils insistent. Landrin s'emporte plus fort. Puis, comme ils maintiennent fermement leur dire, finit par les renvoyer au lundi suivant. Les 2 ouvriers comptent le fait à leur compagnon. Il est le sujet des conversations du dimanche dans les cabarets du village. La vérité de leur réclamation apparaît évidente à tous. Les accusations passées renaissent, se rassemblent, sont commentées. Le lendemain matin, Landrin, qui se tenait à la porte du bureau, crie brutalement aux 2 ouvriers, dès qu'il les voit venir, qu'ils n'ont droit à rien de plus que ce qui leur a été alloué, et qu'ils n'ont qu'à rester tranquilles. Ils ouvrent la bouche pour répondre. Landrin ne veut rien entendre. Il entre dans le bureau, dont il ferme la porte derrière lui. Les mineurs étaient à côté du puits, prêts à descendre. Ils assistent de loin à la scène, sans comprendre les paroles de Landrin. Les 2 réclamants les leur rapportent. Dans le groupe, un grondement circule, sourd, vague, et comme cherchant son expression. « C'est une honte !» s'écrie Antoine, qui la trouve. « Il faut soutenir nos compagnons !» L'accord, électriquement, se fait. Le groupe n'a plus qu'une pensée et qu'un esprit. D'un concert unanime, aussi prompt que l'éclair, tous les houilleurs refusent de descendre dans le puits. Les langues se délient. « Nous voulons parler au directeur. Il faut qu'on renvoie Landrin. Nous ne travaillerons plus jusqu'à ce qu'il soit renvoyé. » Voilà les phrases qui éclatent tour à tour. Le directeur était encore au lit. Un domestique qui rôdait par là court le prévenir, tandis que le groupe se dirige vers sa demeure, située à 500 mètres du puits. Il sort de ses draps et, sans prendre aucune information préalable, ne songe qu'à envoyer demander d'urgence la gendarmerie. C'est son premier soin. Ensuite, il fait dire aux ouvriers que dans 2 heures, il recevra 4 d'entre eux, pas un de plus. Les houilleurs attendent, d'abord silencieux. Quelques femmes surviennent, s'enquièrent, interrogent, s'exclament. Un souffle de passion se lève. Des ricanements partent. Il lui faut bien longtemps pour s'habiller. N'a-t-il pas besoin qu'on lui mette ses culottes ? Disent les femmes. Ne faut-il pas qu'on lui passe ses bas ? Hein, on ne nous donne pas autant de temps à nous. Dans toute saison, nous devons être prêts de grand matin pour aller à l'ouvrage. Nous ne pouvons pas nous retourner dans notre lit pour dormir encore un quart d'heure. Est-il d'une autre patte que nous, ce monsieur-là ? Les 2 réclamants, Antoine, un 4e, sont choisis comme délégués. On les introduit dans le cabinet du directeur, qui les reçoit assis, l'air froid, mais sans irritation apparente. Debout devant lui, leur chapeau de mineur à la main, ils balbutient d'abord, cherchant leurs mots, parlant tous à la fois.
« Comment voulez-vous que je le comprenne si vous parlez tous ensemble ?» fait le directeur.
« Que Guillaume parle seul, » disent-ils. Guillaume était un des réclamants. Surmontant son trouble, il explique l'événement. Antoine ajoute que tous les mineurs demandent justice contre Landrin, que ce n'est pas la première fois que de pareils faits se passent.
Le directeur parlemente. Les gendarmes n'étaient pas encore arrivés.
Ils ne se prononcent pas, ils promettent de voir, d'examiner, et les ajournent à l'après-midi.
Les délégués sortent. On les interroge. Les regards s'allument. On devine instantanément la cause du retard. Aucune violence n'a lieu. Seulement la foule s'installe là en permanence. Les femmes bavardent, les hommes sont sombres. De temps en temps, quelques-uns se détachent pour aller boire une tournée dans un cabaret voisin, mais les quatre délégués ne bougent pas. Bientôt, des gendarmes arrivent. Deux, puis quatre, puis six. Ces derniers à cheval, venant de Liège. Ils se rangent devant la maison du directeur. La vue des gendarmes irrite les esprits.
« Sommes-nous des brigands ?» dit amèrement un ouvrier.
Le mot passe de bouche en bouche, éveillant des colères intérieures. Chacun se tient pour outrager. Le calme du matin fait peu à peu place à une agitation houleuse. Ça et là, on voit de grands gestes animés, on entend des cris indignés. Le dénouement est pressenti. Justice ne sera pas rendue. Ces hommes et ces femmes sentent, jusqu'au plus profond de leur être, l'humiliante misère de leurs conditions. Cependant, l'heure de l'audience approche. Les délégués pénètrent, en passant au milieu des gendarmes, chez le directeur. Landrin, qui s'était tenu caché pendant la journée, se trouve dans le cabinet de ce dernier, à côté de lui. Cette fois, le directeur ne parlemente plus. Ce sont des ordres qu'il dicte. Il veut qu'on se remette immédiatement au travail. Les réclamants ont tort. Landrin était dans son droit. Les délégués tentent de répondre.
« Toute réplique est inutile !» s'écrie dédaigneusement le directeur. « J'ai tout vu !»
Il pensait très sincèrement que les ouvriers sont tenus à l'obéissance passive et que l'autorité d'un chef ne doit pas descendre à discuter avec eux. Les délégués se consultent du regard.
« Puisqu'il en est ainsi, dit froidement Antoine, nous vous déclarons que nous ne travaillerons pas, tant que Landrin nous commandera. »«
Des menaces ?» dit le directeur,
tandis que Landrin lève insolemment la tête.
« Je n'en souffrirai pas. Retirez-vous »
Et il les congédie. La foule accueille leur récit par des rumeurs violentes et des cris d'exaspération. Les gendarmes tirent leur sabre qui étincelle au soleil. Un d'eux s'avance et fait les sommations ordinaires. Personne ne se meut. Une charge est commandée. Les gendarmes à cheval se précipitent et trouent la foule qui se masse, se presse, se heurte à droite et à gauche. Une femme, en courant, tombe sous les sabots des chevaux que l'éperon pique et qui la piétine.
« Canaille ! Une femme !»
crie une voix. C'est la voix d'Antoine. On s'empare de lui. Il est enfermé dans une dépendance de la maison du directeur et gardé à vue. Les ouvriers, fous de colère impuissante, l'œil rouge, fermant les poings, rugissent. Des pierres traversent l'air. Les charges redoublent. Hommes et femmes se sauvent. Le terrain est déblayé. La grève dura 10 jours, après lesquels les mineurs, ayant épuisé toutes leurs ressources, rentrèrent à la houillère, la mort dans l'âme. Et Landrin, plus insolent et plus hargneux que jamais, continua cyniquement son système de retenue particulière sur les salaires, jusqu'à ce qu'un jour, environ 2 mois plus tard, on le congédia brusquement. Il avait touché à la caisse du directeur.